Mais oui, cela va mieux. Bonjour tout le monde. Spectaculaire émission numéro 193 en ce mercredi 3 avril 2019. Christophe Rollin au micro, il est 14h04, un petit peu de retard mais ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qui fait pas beau dehors? Eh bien écoutez, c'est tant mieux si vous êtes à l'antenne, si vous nous écoutez pour bien... Pour l'émission d'aujourd'hui, qui va être une émission formidable, absolument passionnante et fascinante, puisque nous recevons Adrien Allier. Il a ce titre sur la belle brochure Les Traces, histoire d'une prison, Montluc 1921-2010. Il a le titre de coordinateur et rédacteur, mais c'est en fait un chargé de développement. Et puis en fait, il a bien d'autres choses à dire sur lui et sur donc cette exposition qui se tient au Mémorial National Prison de Montluc. Les Traces, je redonne encore son titre, Les Traces, histoire d'une prison, Montluc 1921-2010. Cette exposition a commencé en septembre dernier. Il était question qu'elle se termine le 28 avril, mais elle est prolongée, donc on va pouvoir en parler pendant toute cette émission jusqu'à 15h, et puis vous pourrez vous y rendre jusqu'à en juin prochain. C'est à la hauteur de l'université Lyon 3, vers l'avenue Félix. Enfin bref, on va tout préciser comme d'habitude pendant cette émission. Commençons avec de la musique, commençons avec un super titre que Gérald a dégoté, Wieder im Gefängnis, de nouveau en prison. Un titre avec Marianne Faithfull, c'est sur le 102.2 de la bande FM si vous nous écoutez à Lyon, ou bien vous pouvez aussi le faire sur internet radiocanu.org, et c'est pour introduire cette émission. Et puis c'est à peu près tout. Hein, voilà, c'est à peu près tout. Écoutons de la musique et nous continuerons à parler ensuite.
Gehen frei spazieren, die Dummen und ihre Dirnen. Verdammt, verdammt, verdammt. Die Zeiten sind besser geworden, wir haben alle Hurra geschrien. Die Freiheit, verdammt, die Freiheit. Ein Wagen war gestopft und ich wie eine Hure mit einem Hamburger auf den Schienen, verdammt, auf den Schienen. So da geh ich in ein Geschäft, kommt ein Burger, Milizsoldat, auf mich zu und sagt, du bist mal wieder dran, du bist mal wieder dran, verdammt wieder dran. Aufs Neue geht vor mir die Wache auf und ab die ganze Nacht mit dem Gewehr, verdammt, mit dem Gewehr. Thank you. die Freiheit. Ich sitze auf der Pritsche und suche meine Fleur, sonst nicht. Kartoffelschälen habe ich verweigert. Albträume, verdammt, Albträume. Verstehst du? Albträume.
Est-ce que tu comprends, dit-elle. Je crois que c'est ça. Verstehst du? Bonjour Gérald.
Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Adrien Allier.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, on va écouter Marianne Faithfull, une belle chanson de détention.
À nouveau, Wieder in Gefängnis.
Et voilà. Extrait d'une compilation, les voix d'Ixaxou, Tony Coe, produit par Jean Rochard. Voilà, un album compilation de 1990-2005. Belle chanson, hein.
Oui, très bien. Alors Gérald.
De circonstance.
Présente, fais donc les présentations Gérald, je t'en prie. Quelle expo, qui donc est...
Alors nous présentons une expo qui a commencé il y a très longtemps, j'étais même à l'inauguration il y a bientôt des mois là, c'était quand ?
C'était en septembre 2019,
ça commence 2018 à faire. Alors elle aurait pu se terminer, mais elle va être prolongée. Donc c'est une très riche idée, d'autant plus que c'est une exposition...
Quel est son titre ?
Passionnante, Traces, au pluriel.
Alors, les traces,
attention.
Histoire au pluriel d'une prison.
Voilà, donc Histoire au pluriel d'une prison, Montluc 1921-2010. C'est parti, on reviendra vraiment sur l'idée de cette exposition, mais d'abord, qui êtes-vous, monsieur Adrien Allier ? Vous travaillez à la prison Montluc ?
Oui,
à temps plein.
À temps plein, je travaille au mémorial de la prison Montluc depuis 2013, et en tant que chargé de développement. Donc je travaille plus précisément, mon poste est assez varié, à de la recherche, du développement, travailler au développement des expositions temporaires, une part d'administratif et également un peu de médiation dans le cadre de l'accueil de groupes, qu'ils soient scolaires ou autres.
D'accord. Et vous êtes arrivé que ça comme ça ? Quelle formation ?
Moi, à la base, j'ai une formation d'historien. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai continué mes études un peu en Irlande pendant quelques temps. Et en rentrant, j'ai pu travailler au Centre du patrimoine mondial à Paris, à l'UNESCO, notamment sur un programme qui n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais qui était un inventaire des sites et lieux de mémoire liés à la traite négrière. Ce qui m'a permis de rentrer, on va dire, dans ce domaine, avec toujours pour objectif de valoriser des sites patrimoniaux, puis ensuite de travailler dans différents sites, et il y a maintenant 8 ans, de devenir directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche, qui était une petite structure associative à la base.
Auteuil,
c'est ça. D'accord. Exactement. Qui avait pour objectif voilà, de le faire connaître, de devenir un lieu référence sur ces questions en Ardèche et puis en débordant un peu sur la Drôme aussi. Et c'est ce qui m'a permis ensuite d'obtenir le poste au mémorial de la prison de Montluc. Et maintenant, ça va faire 6 ans, en juillet 2019, ça fera 6 ans.
Ce sont toujours des questions d'histoire qui vous, que vous avez travaillé. J'ai cru comprendre hors antenne tout à l'heure que vous auriez été... l'auteur d'un scénario, d'une bande dessinée qui ne traite pas de cette période historique, mais qui est tout de même en rapport avec, de l'histoire, puis de l'histoire de France. Enfin, je ne sais pas. Adrien.
Alors, effectivement, mon emploi a débordé sur ma vie personnelle et j'ai pu être le co-auteur, je vais préciser. J'ai pu travailler avec Mathieu Rebière, qui est lui professeur d'histoire également, et qui est le dessinateur, et on a co-scénarisé ensemble 2 bandes dessinées. Une qui a été éditée par le mémorial de la prison de Montluc et qui permet en 10 pages de retracer l'histoire de cette prison et les différentes strates historiques et mémorielles du lieu, puisqu'on va en reparler, mais la prison de Montluc est principalement connue pour la période d'occupation allemande, mais c'est bien plus que ça. Et une autre bande dessinée qui a été éditée aux rues de Lyon et qui traite plus de la question de la guerre d'Algérie.
Oui, donc très bien. Traite négrière, résistance, guerre d'Algérie, ça fait une vaste période, 20e siècle surtout, c'est ça ? C'est plus ou moins vos études ?
Je ne sais pas s'il y a un chemin directeur à l'origine, on va dire que l'oppression est assez présente, par contre. Non, c'est plutôt des hasards à l'origine. Ensuite, par contre, l'attachement à l'internement, à la Seconde Guerre mondiale est venu depuis maintenant un certain nombre d'années, vraiment un attachement particulier à cette période, d'où ma passion pour ce site, qui est un site dur, complexe, mais qui est vraiment un site extrêmement intéressant à découvrir.
Gérald, tu...
Très stratifié. La BD se trouve, d'ailleurs, c'est celle que vous diffusez.
Oui, elle est au mémorial de la prison de Montluc, voilà. Sur demande, gratuite, effectivement.
Et l'autre, on la trouve encore ?
Oui, vous pouvez la trouver dans des librairies c'est à Lyon.
Accessible, hein, rue de Lyon, une publication vraiment amusante.
Mettre un lien
cocasse, intéressant
sur le site.
Ah ben, j'indiquerai ça. Gérald, cette question-là, 14h15, il faut la poser, puis après, on passera directement à l'exposition. Comment êtes-vous venu, toi, tu as demandé, comment êtes-vous venu, Adrien, au Mémorial National de la Prison de Montluc ? Mais l'autre question aussi, c'est comment êtes-vous venu
La passion pour l'histoire, le déclic.
Notamment, voilà, que s'est-il passé dans votre petite enfance ou adolescence ou n'importe
quoi. Cours d'histoire.
Voilà, pourquoi n'êtes-vous pas monté sur les planches ? On reçoit souvent des comédiens. Ou pourquoi n'êtes-vous pas artiste graveur ou
musicien ?
Ou musicien. C'est.
C'est difficile de retrouver la genèse totale. Après,
tenter quelque chose.
J'ai bien conscience que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents pendant toute mon enfance.
Et vous avez dit l'Irlande tout à l'heure.
Oui, c'est. Alors ça, c'était.
Ça, c'est post-étude.
Et une fois adulte, mais dès mon plus jeune âge. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir l'Europe en camion avec mes parents très souvent les étés, de découvrir de nombreux pays et d'avoir des parents qui m'ont ouvert à la culture, qui m'ont beaucoup traîné, peut-être même trop à des moments, dans des musées, dans des sites archéologiques. Et donc cet intérêt est venu sûrement de cette période. Après, il fallait le confirmer. Donc bien évidemment, je me suis orienté vers des études d'histoire qui avaient été poussées par mes enseignants d'histoire aussi.
Et les profs, vos parents étaient profs
Non, ma mère est professeur, si, mais de sport.
D'accord.
Alors d'éducation physique et sportive,
oui.
Pour être
le
précis.
PS, voilà, c'est ça.
Et mon père en était sculpteur et ensuite est devenu directeur d'un centre de formation pour travailleurs immigrés.
D'accord. Il y a quand même beaucoup de liens avec vos passions.
Et puis ensuite, les études se sont faites progressivement. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé à travailler sur une période que j'appréciais particulièrement, mais qui à l'origine n'était pas mon sujet de recherche.
Vous étiez quand même spécialisé dans l'histoire, sur l'histoire moderne.
Non, à l'origine même, mon mémoire de master, de master 1, puisqu'ensuite j'ai été sur la voie professionnalisante, était un mémoire consacré à un site sur les menhirs en Saône-et-Loire.
D'accord.
Au néolithique.
Effectivement.
Donc ça n'avait rien à voir. C'est ensuite vraiment une volonté de plutôt travailler à la valorisation des lieux, quels qu'ils soient. Mmh. Et puis ça s'est fait... progressivement de s'orienter vers cette période et puis ensuite, de fait, travailler au mémorial de la prison de Montluc, on a envie de travailler sur ces différentes strates historiques et de toutes les valoriser.
Pour revenir un tout petit peu sur le TAIL, je suis passé plusieurs fois, je ne me suis jamais arrêté. Alors, je ne connais pas ce musée.
Mais... C'est un acronyme, c'est ça ? C'est quoi ce...
Non, le TAIL, c'est une ville, c'est quand on sort de l'autoroute.
C'est le nom de la ville, TAIL.
Et donc, là, il est conséquent ce musée de...
Alors non, je l'ai dit, c'est une toute petite structure. Il faut savoir que la grande majorité des musées de la résistance et de la déportation sont développés début des années 90, comme à Lyon par exemple, et ils sont portés à l'origine par des associations d'anciens résistants, d'anciens déportés, donc ils ont une consistance qui est vraiment associative. Et beaucoup de collectivités territoriales ont repris ces musées au début des années 90 pour essayer d'en faire des sites nouveaux, avec une nouvelle muséographie.
Attractif,
avec des projets pédagogiques, donc à destination notamment des scolaires. Et c'était le cas du musée Auteuil, qui a été repris par la communauté de communes René-Lévy à l'époque, qui prenait en compte plusieurs villes dans la région, et d'en faire un lieu qui soit un lieu référence. Donc un lieu qui est un musée, qu'on visite, mais qui aussi... qui porte des projets hors les murs, qui développe des expositions, qui poursuit des recherches. Donc moi, j'ai été embauché pour ça. Mmh. Et puis ensuite, au bout d'un an et demi, deux ans, je suis reparti pour de nouvelles aventures au mémorial de la prison de Montluc.
On a aussi celui d'Estivareil dans la Loire, on a tout le Vercors, il y en a beaucoup dans le Vercors.
Ah bah dans la région, de toute façon.
Donc c'est des collections, parfois qui sont dans des granges, par des particuliers, puis un jour, ça prend une forme plus muséale, en fait.
Mais c'est surtout que les personnes, elles disparaissent au bout d'un moment. Donc ces personnes qui ont eux-mêmes été acteurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont réussi à regrouper des collections d'objets, de documents, de la presse de l'époque, et bien au bout d'un moment, ces personnes elles disparaissent, les témoins disparaissent, donc il faut que les collectivités, il faut que de nouveaux acteurs viennent porter cette mémoire et cette histoire.
Est-ce que vous êtes passé à Lyon, au centre de l'histoire de la résistance et de la déportation, le CHRD, non, vous n'y avez
pas Non, j'y ai jamais travaillé. Alors après, bien évidemment, c'est un lieu que je connais bien,
oui,
et nous on travaille en bonne intelligence avec ces équipes. Les deux sites sont vraiment complémentaires. Il faut savoir que le musée de la résistance est installé dans les anciens locaux de la Gestapo, là où passaient les personnes avant d'être internées à la prison de Montluc. Donc on a aussi beaucoup de groupes, qu'ils soient scolaires ou non, et même des individuels, qui viennent visiter le musée de la Résistance, le lieu d'interrogatoire, d'investigation policière, et ensuite viennent à Montluc pour découvrir le lieu où étaient enfermées ces personnes. Donc c'est deux sites totalement complémentaires et qui portent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation à Lyon.
L'exposition Trace porte bien uniquement sur la prison, sur le site de Montluc, à côté donc du Fort Montluc, qui actuellement est un hôtel de police, hein, je crois.
Oui, un des deux hôtels Interpolis de Lyon.
Donc cette exposition, Les Traces, a commencé en septembre dernier. Elle se termine, et non pas, le 28 avril prochain, qui est à venir. Hein. C'est d'ici, on est le 3 aujourd'hui, ça faisait quoi, encore 3-4 semaines d'exposition. Eh bien non, c'est prolongé jusqu'au début de l'été.
Alors ce sera prolongé pendant l'été. Hein. Normalement, c'était jusqu'au 28 avril, effectivement, ça a été évoqué. Puis l'exposition connaît vraiment un grand succès. On a des retours extrêmement positifs des visiteurs. Donc ça nous a semblé intéressant de la prolonger et surtout de pouvoir toucher le public plus touristique qui vient à Lyon pendant la période estivale. Donc elle sera naturellement prolongée. Le mois de juillet, sûr, on verra après, on annoncera, on communiquera sur la fermeture officielle de cette exposition qui sera ensuite remplacée par une autre en septembre 2019.
Ce qui
me paraît intéressant, c'est qu'à la fois c'est une expo temporaire, mais en même temps, comme c'est sur les lieux que les graffitis ne vont pas être déplacés, que les portails et que les lieux qui ont été répertoriés dans un très très bon catalogue là, très pointu vont rester. Donc c'est une exposition temporaire, mais qui reste quand même les lieux.
Ben, c'est intéressant justement.
Si Jean Boulin, elle ne bougera pas.
Voilà. Non, mais on ne l'abordait pas en l'occurrence dans l'expo Trace, mais ce qui est intéressant, c'est que, étant donné le succès dont j'ai parlé de cette exposition, certains panneaux qui évoquent des traces présentes vont vraisemblablement être pérennisés dans les mois ou dans les années à venir pour pouvoir les garder sur site et avoir ces traces qui sont constamment expliquées au public au-delà de l'exposition temporaire.
En revanche, l'exposition qui se terminera, c'est La vie quotidienne de l'artiste Nicolas Dauban. Elle a commencé en février dernier et se terminera le 27 avril prochain. Eh bien, auditeur, auditrice, je vous propose, enfin, c'est toi Gérald qui nous propose d'écouter un titre, de faire une pause musicale comme ça, c'est trop bien, 14h22. Et puis ensuite, nous évoquerons plus précisément bien cette exposition, ces différentes traces carcérales, artistiques et mémorielles, et j'oublie également les clandestines. Voilà, c'est ça. Donc la brochure, tu l'as dit, hein, Gérald. Enfin, non, j'appelle ça brochure. C'est peut-être pas non plus catalogue.
Un joli catalogue.
Catalogue d'exposition.
Très bien fait, très riche, très complet.
Extrêmement complet. Il est tout à fait disponible par gratuité. Enfin voilà, on peut l'acquérir facilement.
Voilà, gratuitement.
Il est gratuit. Très bien fichu. Les textes sont bien écrits. C'est vous êtes responsable. Hein. Coordination et rédaction, c'est ça.
Alors, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est la totalité de l'équipe.
Coordination, effectivement. Les photos sont bien réalisées. On essaye ce Betty.
Non, oui, Adrien nous avait proposé Barbara avait chanté ce que j'ignorais en 61.
Pour les prisonniers. C'est dans les années 80. Elle est venue chanter à la prison de Montluc. Je ne me rappelle plus la date précise. Ouais. Elle l'a fait dans d'autres prisons. Ouais. Mais effectivement, les femmes de Montluc ont eu un rôle important et elles sont restées pour elles un moment important de sa vie.
Donc, quand on n'a pas trouvé ce titre que j'ignorais sur les réseaux du web, on va passer un grand classique de la chanson carcérale, parce que je pense que on pourrait même faire une spéciale chanson carcérale, je pense qu'il y a matière à faire une anthologie. C'est le fameux et l'inoubliable Betty de Lavilliers. C'est à la fois un hommage aux femmes prisonnières et c'est un hommage à toutes celles qui sont passées par là.
Alors, je cherche une version, je vais
la plus simple, guitare, voix. De quel album d'ailleurs, cette CNV, chanson qui date des années 80, hein, ou peut-être même 70.
Allez, on va essayer ça, est-ce que ça a fonctionné? Ça a l'air, je crois.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles.
On va voir ça.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles. T'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et se lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune sur le sol allume, visage oublié de celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Petit, faut pas pleurer. Petit, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. J'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille et j'ai composé. Une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté. Pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité. Pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Couché là, et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Petit, faut pas pleurer. Petit, faut pas trembler. On se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Le magnifique Betty Lavillier, vous êtes bien...
Ah bah si, je t'en prie.
Oui, on est bien en antenne, on est bien à la radio, et vous êtes bien sur Radio Canu, émission consacrée à l'exposition Traces, qui est prolongé avec notre invité du jour, Adrien Allier, chargé de mission, historien archiviste à la prison Montluc, et qui va nous déployer un petit peu le projet, l'idée, l'origine, et comment ça s'est passé, et ce qu'on peut y voir à cette exposition.
Eh ben, à l'origine, c'est parti déjà des visiteurs. C'est ça qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle part à l'origine des questionnements des visiteurs. Mmh. On s'est bien rendu compte que lors des visites, que ce soit des groupes ou des individuels, on avait des questions récurrentes qui revenaient tout le temps par rapport à des traces, par rapport à des éléments visibles ou non. Et on s'est dit que ce serait nécessaire de faire une exposition qui justement donne des réponses à ces questions qui reviennent régulièrement. Mmh. Et toute l'équipe s'est mise à travailler justement sur cette thématique des traces. Et sur celles qui pourraient permettre d'avoir une vision globale de l'histoire de cette prison. Je l'ai dit tout à l'heure, la prison de Montluc est devenue en 2010 un mémorial axé sur la période d'occupation allemande. Et c'est vraiment l'objectif de ce mémorial à l'origine. Maintenant, dans le cadre des recherches qu'on a pu effectuer au mémorial, on essaye de montrer que c'est un site qui est beaucoup plus complexe que ça. Et entre 1921, sa construction, et 2009, sa fermeture, il se passe énormément de choses très différentes. Avec des personnes qui sont détenues à l'intérieur et qui sont les reflets des troubles politiques et sociaux qu'on peut retrouver à l'extérieur des murs. Et donc, en fait, on peut retracer une histoire du XXe siècle français en parcourant les différents profils de détenus à l'intérieur de la prison de Montluc. Et nous, on a choisi de le faire via les traces visibles encore sur les bâtiments. Donc on en a identifié énormément. Donc il y a déjà eu un travail
sélection.
De sélection.
D'identification et de sélection.
Voilà, tout à fait. Et puis on en a sélectionné 34 au total. 34 qui représentent ces différentes périodes de la prison. Et en quatre grandes thématiques hein, qui ont été évoquées tout à l'heure, donc les traces carcérales, donc qui sont propres au fonctionnement de la prison, une évolution, un mur qui est détruit, une cloison qui est ajoutée ou ce genre de choses. Les traces clandestines, donc là propres au à la vie des détenus et aux traces qu'ils ont pu laisser sur les portes, sur les murs à différentes périodes.
Concrètement, c'est ce que vous appelez les graffitis, je crois.
C'est ça, exactement.
Ah, à l'LOM, hein, y en a un, Gérald, il est pour toi. Il est expressément.
Il y en a un, effectivement, à l'LOM, et ça permet de parler de la question du sport en prison. Mais on a également des traces artistiques, puisqu'on a aussi des fresques qui ont été réalisées à l'intérieur de la prison de Montluc, notamment au début des années 90, on en parlera peut-être un peu plus tard, et les traces mémorielles. C'est pour ça que l'exposition, les bornes chronologiques, c'est bien 1921-2010, et non pas 2009, la fermeture de la prison, puisqu'à partir du moment où la prison devient un lieu de mémoire, un mémorial, eh ben on va avoir au sein du mémorial de nouveaux lieux de mémoire qui vont se développer, notamment autour d'un lieu emblématique qu'on appelait la baraque aux Juifs, où on va avoir une stèle installée en mémoire de ce lieu qui accueillait majoritairement des Juifs hommes de plus de 15 ans en 43 et 44.
Il n'y a plus rien d'ailleurs, il n'y a plus de baraque. Hein.
Il y a juste l'emplacement symbolique au sol. Et une horte.
Non, c'est le mur des fusillés, je vois aussi.
Mais et le mur des fusillés, effectivement, où c'est la deuxième stèle qui est présente à l'intérieur. Une stèle qui rappelle, en fait, la mémoire des personnes fusillées à l'intérieur de la prison de Montluc, mais qui en fait n'ont pas été fusillées à l'intérieur de la prison de Montluc. C'est aussi ça l'objectif de cette exposition, c'était déconstruire des idées préconçues. Ce mur est appelé mur des fusillés depuis la fermeture de la prison, bien avant. Effectivement, on a des traces d'impact de balles sur le mur, mais il se trouve que les exécutions, les personnes qui étaient fusillées suite à une décision d'un tribunal militaire était fusillé à Ladoy, le lieu officiel des exécutions, et qu'au printemps, à l'été 44, lorsque la défaite allemande se précise et vont avoir lieu des massacres d'internés de Montluc, ils ont lieu en différents endroits autour de Lyon, dans la banlieue, dans les campagnes environnantes.
Une donc carte indique à l'intérieur, il y a bien un panneau qui est très précis sur ce point.
Donc on n'a en fait aucune preuve archivistique d'une personne exécutée à cet endroit. Ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, selon les témoignages et quelques archives, on a pu avoir des exécutions au sein de la prison à cette période, mais rien ne nous permet de connaître le lieu précis à l'intérieur.
Et les impacts de balles qui sont présents peuvent être des tirs d'essai ou...
Alors, l'expert balistique qu'on a fait venir penche plutôt pour des tirs d'entraînement.
C'est ça.
Mais alors, aussi, il nous a précisé que les impacts étant relativement anciens, des prélèvements dessus ne donneraient pas grand-chose, donc on est vraiment sur une approche superficielle. Mais au vu des premières observations, ce serait plus des tirs d'entraînement. En tout cas, lui penchait plus de ce côté.
Vous avez parlé de questionnement des visiteurs, il y avait un manque, cruel parfois, sans parler de tabou, mais on apprend quand même dans ce catalogue, et on apprend à l'occasion de cette exposition, qu'il y avait quand même une guillotine.
Alors oui, il y a eu une guillotine.
Et là, il y a eu par contre des morts.
Alors oui, effectivement, des gens ont été exécutés au sein de la prison de Montluc. Il faut replacer dans un contexte historique. Là, on n'est plus pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On est à nouveau dans un état de droit et on a une peine de mort qui existe en France jusqu'en 1981. Et le quartier des condamnés à mort qui était situé à la prison Saint-Paul, historiquement, va être transféré à la prison de Montluc à partir de 1955. Donc de 55 à 66, 66 marquant la dernière exécution capitale à Lyon, le quartier des condamnés à mort est à la prison de Montluc et c'est en pleine guerre d'Algérie. Donc on va déjà avoir entre septembre 59 et janvier 61, 11 Algériens qui seront membres du FLN qui sont guillotinés. Donc ça, on le sait grâce à des études historiques récentes, notamment menées par Marc André, un historien qui travaille sur cette période et sur la prison de Montluc. Et on va avoir également quatre droits communs, en plus de ces 11 Algériens, donc ce qui porte le total à 15 exécutions entre 1955 et 1966. La guillotine, précisons qu'il n'y a pas une guillotine à Montluc, à demeure. La guillotine, elle est amenée dans le lieu pour les exécutions, puis ensuite elle est démontée par le bourreau pour être amenée à un autre endroit. Donc on a vraiment quelque chose de fluctuant, il n'y a pas une guillotine à demeure au sein de Montluc.
Je me suis avancé jusqu'à cet homme pour lequel je n'avais rien pu faire. Il me regardait sans me voir, je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis mis à parler comme pour bien faire du bruit, pour ne pas laisser ses instances au silence. Au moment où ils l'ont fait basculer en avant, le supplicié n'a pu retenir un cri animal. Le couperet est tout de suite tombé et sa tête a roulé tandis que les soubresauts agitaient le reste de son corps. J'extrais cette citation un peu dure. C'est un témoignage de maître François Lafuong, avocat d'Abdallah Kabouche, algérien condamné à mort et guillotiné à Montluc le 17 mars 1960. Publication dans Maître, vous avez la parole, aux éditions Aléa en 2003. C'est vraiment, tu l'as dit Gérald, hein, cet album, catalogue, oui, est vraiment très bien, très riche. Beaucoup d'éléments, des illustrations, des citations. Elles sont dures. On voit à côté un collage d'Ernest Pignon-Ernest réalisé à la prison Saint-Paul en septembre 2012. On voit cette guillotine. Et donc, ce que vous avez dit à l'instant, je suppose, Adrien, ça se trouve sur cette page 44, c'est ça, cette guillotine n'était pas à demeure. On l'a fait venir pendant une période.
Ça voyageait beaucoup, ces instruments.
On en avoir plusieurs. Hein, celle qui a été utilisée à partir de la Révolution française, c'est pas la même qu'on utilise en 77 pour la dernière exécution en France, à la prison des Baumettes. Mais ce qui était intéressant à Montluc, c'était pas de parler de la guillotine, c'était de parler des traces qui permettent de parler de la guillotine. Voilà. Et en l'occurrence, on le voit dans le catalogue, c'est une petite poulie installée en haut du chemin de ronde et qui, dans les premières années où le mémorial a été ouvert, des anciens gardiens nous ont précisé qu'il s'agissait d'un dispositif pour cacher cette guillotine. Il faut savoir qu'à partir de 39, en France, les exécutions ne sont plus publiques, elles doivent avoir lieu à huis clos, au sein des prisons. Avant, elles avaient lieu à l'extérieur, sur le trottoir ou en place publique. Et on va donc installer une grande bâche noire pour cacher, puisqu'on a des immeubles à proximité de la prison de Montluc, construits au début des années 50, qui pouvaient voir ces exécutions. Donc on tendait ce drap pour cacher les exécutions. On sait qu'on a vraisemblablement eu deux lieux. Au début, les exécutions avaient lieu dans la cour, donc pas très loin des anciens détenus aussi, potentiellement dans une cour spécifique, mais des personnes pouvaient quand même voir des immeubles environnants. Donc on a déplacé pour les dernières exécutions dans le chemin de ronde, grâce à ce dispositif qui permettait de les dissimuler.
Et en 81, c'est fini. C'est grâce à Monsieur Badinter.
Robert Badinter, effectivement, fait abolir la peine de mort, mais la dernière exécution, c'est 77, comme je vous l'avais dit, hein, à Marseille, et pour la région de Lyon, hein, c'était en 66, à Montluc.
Est-ce qu'on écoute dans Soie de Massy, et puis après, peut-être plus précisément sur le sous-titre de cette exposition, Les Traces, histoire au pluriel d'une prison, Montluc 1921-2010. Peut-être pourriez-vous brosser un peu, je sais pas, les quelques dates qui font que cette prison change un peu de statut. Elle est au départ.
Il y a une chronologie d'ailleurs. Très
prison militaire, puis prison civile, puis prison avec Vichy, puis prison, c'est ironique, hein, Klaus Barbie qui a-t-il œuvré dedans? Ouais, est-ce qu'il a tabassé un peu des personnes Non, vous avez dit que les bureaux pour la Gestapo.
C'est le CHRD.
C'était plutôt le CHRD. Mais...
Alors, c'était pas le CHRD de l'époque,
oui, évidemment. Bien sûr, mais la
police allemande, puisqu'en fait le terme Gestapo est utilisé de manière abusive en France, hein, c'est le CIPO SD, a été situé déjà à l'hôtel Terminus Perrache. Puis ensuite, la section 4, dit Gestapo, s'est déplacée avenue Berthelot.
Avant d'y aller dans les années 80, Klaus Barbie, il y était aussi auparavant, en 40.
Alors, lui était, effectivement, ses bureaux étaient aussi siège de la Gestapo, avenue Berthelot, et c'est à cet endroit où les interrogatoires et les tortures avaient lieu.
Y est-il passé avant d'être lui-même incarcéré?
Il allait chercher des prisonniers.
Alors, il passait pour récupérer des prisonniers, éventuellement pour préparer des convois de déportation. On a trace dans certains témoignages, notamment le dernier convoi du 11 août. Mais la prison de Montluc est une prison de la Wehrmacht, donc de l'armée allemande, qui assure l'administration et la surveillance de la prison. La gestion des détenus, la majorité, c'est par la police allemande, la Gestapo et Klaus Barbie, mais la surveillance et la prison, elle est bien une prison militaire, pas la prison de la Gestapo.
Et d'ailleurs, on a oublié de le préciser en début d'émission, c'est un lieu, ce mémorial de Montluc, qui n'appartient pas au ministère de la Justice, mais au ministère des Armées.
Effectivement, le site est géré par l'opérateur du ministère des Armées, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Voilà, dont on peut saluer la mémoire de M. Rivet, d'ailleurs.
Notre directeur, effectivement, qui est décédé en janvier dernier.
Qui était directeur de l'ONAC aussi.
Qui a été directeur du service départemental de l'ONAC pendant de nombreuses années.
Est-ce qu'on a évoqué le lieu ou les tarifs, là, comme ça, une seconde avant d'écouter Soie de Massy?
C'est gratuit.
Mais pour dire, voilà, c'est ça.
les tarifs, ce sera rapide,
c'est
effectivement.
Facile, voilà.
Et même les catalogues sont gratuits, vous allez gratuitement passer un moment d'histoire un peu violent, parfois dur, mais vous prenez beaucoup de documentation intéressante et pouvez.
Mais pour les horaires, le site est ouvert du mercredi au samedi, de 14h à 17h30, gratuitement, et une visite guidée gratuite également est proposée à 15h30 tous les jours d'ouverture.
Et l'adresse, il manquait ça peut-être.
4 rue Jeanne Hachette, à côté de la manufacture des tabacs, l'arrêt de tram T4, manufacture Montluc.
Vers l'université. On écoute Soie de Massy, Bladi, une petite pensée émue à nos amis algériens et d'origine algérienne. « écoutait Blady, Mon Pays, interprété à la guitare et au chant par Swad Massi, extrait de l'album des années 2000, Raoui. Alors Mon Pays, là où j'ai vécu et grandi, Mon Pays, là où j'ai pris conscience, Mon Pays, là où j'ai aimé tant de choses, Mon Pays, combien de fois ai-je pleuré pour toi ? La terre est devenue un enfer, le feu a brûlé le printemps, arrêtez de faire la guerre. Vous faites la guerre à des enfants, il n'en restera que la vérité. Mon Pays, ton état déchire les cœurs, Mon Pays, tu as défié les extrêmes. Mon Pays, du feu, il ne restera que des cendres, Mon Pays, il ne restera que des pierres dans le fleuve. C'est beau. Swad Massi, pour ceux que ça intéresse, est passé il y a quelques semaines chez Toufik Hakem le matin, l'éveil culturel, 6h-6h30. Elle sort un nouvel album. Elle est toujours détestée dans son pays d'origine. Et c'est une grande chanteuse, on peut le dire. Voilà. On revient à la prison Montluc. Oui. On a parlé des Algériens guillotinés, ils étaient 11. On va revenir à d'autres périodes historiques. Monsieur Ali Adrien, vous allez nous faire brièvement, vous êtes très bon pour ça, l'historique rapide, entre 21 et 2010.
L'élément le plus important, c'est le tribunal militaire. C'est qu'en même temps que la prison est construite en 21, on construit un tribunal militaire attenant. Et c'est le lien pendant toute la durée de l'histoire de cette prison qui va imprimer la destinée de ce lieu. On a une prison tout d'abord qui est déjà très très peu utilisée. En fait, elle n'est réellement utilisée qu'à partir de 39 et le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc dès le début de la guerre, dans le cadre de l'état de siège et de ses juridictions d'exception qui permettent d'arrêter les personnes pour atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, elle est utilisée pour enfermer les premiers opposants politiques, notamment communistes, à cette période. Et ce glissement répressif va se continuer avec l'arrivée du maréchal Pétain, une fois la défaite française arrivée. Toujours avec les mêmes juridictions, puis de nouvelles juridictions qui permettront d'arrêter encore plus de personnes, les premiers résistants, d'autres militaires, anarchistes, communistes, francs-maçons, qui vont terminer à Montluc. Et on est, dès cette période, à la fin de l'année 40, sur une prison prévue pour 122 personnes à l'origine, 127 si on compte les officiers, qui vont en accueillir près de 360 à la fin de l'année 40, donc des conditions de vie qui vont devenir déjà difficiles à cette période, mais qui paradoxalement, comparé aux autres prisons utilisées à l'époque, sont encore correctes. Et l'invasion de la zone libre va à nouveau changer la donne, puisqu'on va avoir l'arrivée des troupes d'occupation allemande dans la région lyonnaise, qui était située en zone libre jusqu'à maintenant, et une réquisition par l'armée allemande de la prison de Montluc en janvier partiel, puis ensuite le 17 février 1943, une réquisition totale et une prison qui devient le lieu de transit principal pour la région Rhône-Alpes, une grosse région Rhône-Alpes, pour les personnes arrêtées par ces troupes d'occupation allemandes et les auxiliaires français travaillant pour ces troupes d'occupation, résistants, juifs, familles entières, réfractaires au travail obligatoire, opposants politiques, quelques droits communs, des otages, des raflés, des hommes, des femmes, des enfants, et ce sont près de 10 000 personnes en un an et demi qui vont transiter par ces murs. Environ 70% de personnes déportées et environ 700 personnes
vers Auschwitz,
déportées vers différents camps. Alors transférées vers les camps de transit parisiens, puis ensuite déportées dans des camps de concentration pour les personnes résistantes, opposantes et réfractaires. Pour les juifs, par contre, effectivement, Auschwitz-Birkenau. Et là, une destinée beaucoup plus dramatique, puisqu'on a un taux de survie sur les juifs déportés à Auschwitz-Birkenau de 3,5%.
Et avant la réquisition de Pétain, il n'y a aucun juif qui est enfermé d'un. Avant, dans l'acquisition de l'armée allemande, il n'y a
pas
Pétain,
à Montluc. Effectivement, les Juifs sont déjà arrêtés par le gouvernement français de manière extrêmement importante. Mais Montluc est sous juridiction militaire et les Juifs ne sont pas arrêtés par des juridictions militaires. Donc voilà pourquoi les Juifs n'arrivent qu'une fois que la prison est allemande. On a parlé des massacres aussi et des exécutions qui vont se poursuivre jusqu'au mois d'août 44. 24 août 1944, on va avoir la libération de la prison de Montluc, et une semaine et demie après, le 3 septembre, la libération de la ville de Lyon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dès le soir même de cette libération, on a un basculement, et la prison devient le lieu de détention principal pour la région lyonnaise, pour collaborateurs, criminels de guerre, français, allemands, auxiliaires de la Gestapo, membres de la milice, et un mois après, il y a 900 personnes qui sont enfermées à Montluc, accusées de collaboration ou de crimes de guerre, mais qui sont en attente d'être dirigées vers une juridiction compétente. On est dans le rétablissement d'un état de droit, et on va remettre en place différents types de juridictions qui permettent de juger ces personnes. On en aura qui seront condamnés à mort, notamment par les cours martiales très rapidement, et on aura des Allemands détenus à Montluc jusqu'au milieu des années 50, des membres de la Gestapo de Lyon qui seront détenus jusqu'au milieu des années 50.
C'est peut-être horrible à dire, mais peut-être que le fait que ces gens collaborateurs et autres aient pu être en prison, quoi, Ça a été une manière de les protéger pour pas qu'ils subissent les exactions dans la rue.
Ah bah le fait de finir à Montluc à cette période
c'était
est
une, chance.
une bonne nouvelle pour ces personnes, ouais. Parce qu'effectivement on ne peut pas échapper à une période de justice expéditive.
Voilà,
et à Montluc on est en attente d'être dirigé vers un organe de justice.
Du western peut-être, c'est ça. Est-ce que c'est le cas de ce Max Payot, c'est bien ça, non, c'est pas très net. Hein,
Alors, Max Payot, c'est un itinéraire particulier parce que lui, il est déjà passé par Montluc pendant l'occupation allemande. Alors, c'est l'itinéraire exemplaire du. De la petite frappe du collaborateur auxiliaire de la Gestapo qui va notamment participer à des pillages de domiciles de juifs, à des massacres, à des exécutions, mais qui va se retrouver aussi à un moment arrêté par la police allemande et détenu à Montluc. Alors après, à savoir si à Montluc, il va y rester, c'est de mai à juin 1944, si il va servir de mouton, c'est-à-dire d'indique, voilà. Qui essaye de récupérer des informations pour d'autres détenus. En tout cas, il est libéré peu de temps après, et il reviendra à Montluc plus tard, une fois la libération intervenue, mais là, en attente d'être jugé pour collaboration, et il finira même par être transféré à la prison Saint-Paul, et sera assassiné dans sa cellule à la prison Saint-Paul.
Un règlement de compte crapuleux ou
alors,
historique, idéologique.
Au niveau archivistique, aucune possibilité de le savoir. Bien évidemment, Max Payot, il est identifié comme un collaborateur actif dans la région lyonnaise. Il est connu, son nom et son prénom sont connus, donc on sait qu'il est recherché et qu'il y a une, vraisemblablement une volonté de vengeance sur cette personne. Donc voilà, c'est aussi une période importante de l'histoire de la prison de Montluc. Et c'est bien évidemment des traces qui nous ont permis de parler de ça encore. Mais à Max Payot.
Un graffiti, c'est ça ?
Un graffiti sur une
paille seulement. P-A-Y. Alors,
aucune possibilité d'être sûr à 100% qu'il s'agit d'un graffiti de Max Payot, réalisé par Max Payot. Mais en tout cas, ça permet d'en parler. D'accord. Et de déboucher, de parler de cette question de l'épuration en France.
Une trace intéressante, hein, tu l'évoquais Gérald tout à l'heure, c'est cette baraque aux juifs qui donc n'existe plus. Et la matérialisation est assez c'est assez violent, enfin quand même c'est seulement un marquage au sol avec des graviers et c'est quand même pas très grand. Il y a un très court témoignage qui est donné, qui est présent dans ce catalogue. Cette baraque m'intrigua beaucoup. Dans mes lectures par la suite, j'ai trouvé les suppositions les plus diverses: condamné à mort, otage, personnalité. En fait, elle était tout cela, c'est-à-dire le trop-plein des bâtiments. C'est Charles Sirieu, lui-même interné dans la baraque en janvier 1944, qui écrit ça dans Montluc, Antichambre de l'Inconnu, 1942 à 44. À nouveau, vous en parlez tout à l'heure, BGA Permezel, c'est quoi? Ce sont des éditions, c'est ça?
Non, c'est un oui, historien.
BGA Permezel, c'est BGA. Une maison d'édition.
C'est la mémoire de Montluc.
Qui est gérée par Bruno Permezel, qui est le président de l'association des rescapés de Montluc, donc association constituée dès octobre 1944 pour regrouper les personnes internées à Montluc, rescapées de la déportation ou des exécutions.
Cette baraque est détruite, hein, c'est ça?
Elle est détruite.
Elle a été, alors en fait,
à l'origine, c'est une baraque temporaire. Hein, c'est un bâtiment en bois. C'est les baraques qu'on appelle ECMB, hein, qui sont construites, développées notamment pendant la Première Guerre mondiale pour les casernements de troupes. Et on en installe une à Montluc au cas où une troupe en casernement passe dans la région pour stocker du matériel, des outils. Et à partir de 1943, elle est utilisée comme lieu de détention parce qu'on est dans une prison surpeuplée. On a 7 à 8 détenus dans des cellules de 4 mètres carrés. On a des gens enfermés dans les ateliers, dans les caves, dans les douches, dans les toilettes et dans cette baraque. Mais on retrouve des typicités de détenus différentes selon les endroits. Dans cette baraque, à partir du début de l'année 44, ce sont des juifs hommes de plus de 15 ans, les femmes et les enfants étant détenus dans les cellules du rez-de-chaussée. Mais en 43, on retrouve également des femmes selon des témoignages et des résistants, des opposants. Donc aussi, entre 43 et 44, on a une évolution de la prison qui fait que la prison de Montluc n'est pas du tout la même selon le moment où on en parle, même au sein de la période d'occupation allemande.
Vous n'avez pas pu eximer, par exemple, j'ai appris ça, de M. Permezel d'ailleurs, il y avait la présence d'écrits de graffitis antisémites, par exemple.
À la prison ?
Oui.
Alors, moi, j'ai aucune connaissance de graffitis antisémites.
Il y en a eu. Peut-être qu'ils ont été détruits, qu'ils étaient sur la baraque aux juifs, précisément.
Ah ben alors là,
si on aurait permis d'évoquer tout l'aspect un peu vichysseau, résistant, vous voyez, ces gens qui croyaient en la France, mais qui quand même très antisémites.
Moi, j'ai aucune connaissance de graffiti à ce niveau. Après, ça me paraît surprenant, puisqu'il faut...
Ils sont dans une édition, il me semble. Il y a deux, trois photos.
Il faut bien avoir conscience que cette baraque, elle est détruite en 1955. Qu'elle était complètement pourrie, hein. Ouais, baraque en bois, pas d'entretien. Elle a disparu à cette période. Et elle est au sein d'une prison qui est une prison militaire jusqu'en 1947, puis ensuite qui devient civile dépendant du tribunal militaire. Donc on n'y avait pas accès aussi à cette baraque. Donc moi, non, je n'ai pas connaissance.
C'est peut-être d'autres murs. En tout cas, ils existent, ils ont existé.
C'est possible, mais j'en ai pas connaissance.
Nicolas Deban, ça se termine. Alors, comme l'émission va toucher à sa fin, est-ce qu'on pourrait évoquer Adrien Allier, chargé de développement au Mémorial national de la prison de Montluc, notamment responsable actuellement, coordinateur, rédacteur de cet album qui est vraiment, vraiment très, très complet, très bien. Est-ce qu'on pourrait évoquer donc exposition, j'en bredouille totalement, je mange mes mots, exposition qui se prolonge à l'été a priori, mais pour ce qui est de Nicolas Deban, ça s'achève. Nicolas Deban n'est pas n'importe qui,
vous avez connu.
Primé dernièrement, c'est ça ?
Alors, tout récemment, effectivement, il a reçu le prix des Amis du Palais de Tokyo, qui est un prix d'art contemporain
assez important
en France. Ouais. Et alors, sa venue n'était pas liée à ce prix, hein, c'était déjà prévu avant. C'est dans le cadre de la programmation culturelle liée à cette exposition, hein, qui a été composée de projections en partenariat avec le Comédia, de conférences.
Le film Un condamné à mort s'est échappé de Bresson. Mais c'est très récent, non ? Il était projeté en janvier.
Oui, on a pu. Là, il y a la semaine dernière, on a eu 5 classes de la région lyonnaise qui ont assisté au film et qui ont ensuite pu avoir une visite guidée thématique sur l'évasion d'André Devigny,
le
seul évadé
de
cette prison.
En 43, c'est ça ? Mais
oui, 43.
Ils sont deux à sortir, non, je crois ?
Alors, ils sont deux, mais il y en a un qui est repris quelques heures après. Donc c'est le seul évadé non repris, mais ils sont effectivement deux à s'évader ce jour-là.
Et à ce moment-là, il s'évade parce que vous dites, c'est très intéressant, là à l'instant vous indiquez, selon les dates, la prison n'avait pas la même signification. Là en 43, c'est clair et net, là pendant quand même quelques temps, elle est prison militaire allemande. C'est terminé Vichy.
Ah oui, tout, là quand il s'évade, lui c'est pendant la période allemande, et puis en 44, son évasion n'aurait jamais été possible, puisque là on aurait été dans une surpopulation où il n'aurait pas pu réussir ce genre d'évasion.
Donc, Nicolas Deban.
Ouais, alors, Nicolas Deban est connu pour ses dessins avec une technique très particulière, à la poudre de fer aimanté, à la limaille en fait.
Oui, mais c'est ça qui nous a intéressé en fait à l'origine, c'est que Nicolas Deban est un artiste qui travaille sur la prison depuis très longtemps.
Voilà.
Nous, on avait pu rentrer en contact avec lui parce qu'il était intéressé par la prison de Montluc, et on a décidé de lui proposer de venir en résidence artistique pour créer des œuvres in situ qui seraient présentées pendant 2 mois. Mais en s'inspirant de l'histoire de la prison. Donc c'est pour ça qu'il est resté au contact de l'équipe pour découvrir l'histoire du lieu, découvrir des documents d'archives, et ensuite créer les œuvres qui sont présentées actuellement, donc jusqu'au 27 avril, jusqu'au 28 officiellement, mais le site étant fermé le dimanche, ce sera jusqu'au 27. Et ces différentes œuvres qui sont extrêmement intéressantes, lui travaille notamment sur la question de traces. Je vous prends un exemple, hein, il a beaucoup travaillé sur les projections de limaille sur des supports aimantés, donc où on a de la limaille qui tient juste grâce à l'aimant, de manière assez temporaire. Et il a également travaillé sur les reproductions de manuscrits, de témoignages de personnes ayant connu des tortures au siège de la Gestapo, en projetant de la limaille de fer incandescente sur des porcelaines, pour pouvoir marquer la porcelaine à des endroits où, grâce à un pochoir, il avait pu imprimer les différents témoignages dont on vient de parler. Donc on a vraiment des œuvres qui sont en lien avec l'histoire de la prison, plus quelques autres œuvres qui sont, des œuvres créées avant son intervention à Montluc, mais qui traitent toujours de cette question de l'enfermement et de la prison.
Je vais lire un petit extrait, parce que c'est, comme d'habitude, un très beau petit catalogue. L'exposition, donc Nicolas Deban, qui a été à résidence au Mémorial Montluc, s'appelle La vie quotidienne. C'est du 21 février au 27 avril 2019, au Mémorial national de la prison de Montluc. Donc, prison Montluc, hein, l'exemple d'une œuvre, bâtiment cellulaire 100 x 70 cm, dessin sur papier à la poudre de fer aimantée 2019. Donc, exposé dans le bâtiment cellulaire Sas Vitré. Les dessins à la limaille de fer de Nicolas Deban représentent des lieux carcéraux en activité ou désaffectés, construits selon le modèle panoptique, hein, le fameux panopticon, élaboré par les frères Jérémy et Samuel Bentham, philosophe anglais à la fin du XVIIIe. Symbole architectural de ce que Michel Foucault a nommé les sociétés de surveillance, ce dernier allie pragmatisme architectural et fonctionnalisme judiciaire en permettant une observation totale reposant sur le principe du voir sans être vu. ou ces structures architecturales rayonnantes, hein, en fleurs, avec un point central qui permet de tout voir. L'utilisation de la limaille de fer permet à Nicolas Dauban de faire coïncider son sujet avec les moyens de sa représentation. Elle figure en premier lieu l'omniprésence du métal dans l'espace carcéral qui, de barreaux en porte blindée, de caméras en tôle de mirador, affiche une esthétique ferreuse propre au lieu sécurisé. Mais à un autre niveau de lecture, elle peut également induire une narration plus spéculative en renvoyant aux traces d'une évasion imaginaire, au reste laissé par un détenu qui aurait limé les barreaux de sa cellule. Le choix de ce matériau extrêmement volatile traduit enfin la volonté de l'artiste de soumettre le mode de représentation aux règles qu'impose la clandestinité du fugitif qui ne peut laisser d'indices ou d'inscriptions pérennes derrière lui, mis à part ces fameuses traces et graffitis.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce travail se poursuit, hein, puisqu'il expose également au centre de la Halle à Pont-à-Royan, puis ensuite dans un centre à Saint-Restitut. Donc, toujours sur ces mêmes thématiques et de cette possibilité d'ouvrir les questionnements qu'il a pu avoir à Montluc, dans une région qui est riche, comme on l'a dit, en lieux de mémoire liés à cette période de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, bien entendu, hein, il faut prononcer ces termes à la fin. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter de dire ça. Hein, ouais. Jour, on n'a pas tout dit, mais l'émission
on ne pourrait pas dire sur la prison de Montluc.
C'est pour ça qu'il faut venir.
Il faut y aller.
Et pour revenir.
Exactement, y aller et revenir. Pourriez-vous nous redonner les éléments, je ne sais pas comment nommer ça, précis, informatifs
Le site est ouvert du mercredi au samedi, les après-midi de 14h à 17h30, mais propose une visite guidée, et j'insiste, sans réservation et gratuite, à 15h30 tous les jours d'ouverture.
Et puis, vous nous avez indiqué également le tarif, hein, les moins de 26 ans, je crois que c'est différent des moins de 18 ans, c'est aussi différent pour les seniors, non.
Il n'y a aucune différence. C'est gratuit, pour tout le monde.
La gratuité est pleine et entière.
Et puis, on repart avec des super bonnes bandes dessinées, des catalogues très, très, très bien réalisés. Et puis, on voit des choses intéressantes et on réfléchit.
La société. C'est ce qu'on essaye tous de faire au mémorial.
Et au lien entre l'histoire et son actualisation et son lien avec le passé et le présent.
Et puis au pire, il faut le redire, c'est que même si on manque tout de même l'exposition, certaines de ces traces, certains des éléments, des panneaux, disiez-vous, des petits cartons, des petites affichettes, certaines de ces choses seront pérennisées, c'est le terme que tu employais Gérald à l'instant pour Nicolas Dauban, seront pérennisées et resteront sur place.
Enfin, effectivement, il y a des panneaux qui vont être installés et pérennisés, et puis de toute façon, restent des médiateurs. Qui accompagne dans le cadre des visites guidées le public et qui, au-delà d'un panneau qui soit présent ou non, vont permettre aux visiteurs de découvrir le site dans sa globalité et de mettre en avant telle ou telle trace.
Vous avez échappé
15 heures, mais bon, oui.
À la fleur de François Béranger. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Le chant du prisonnier. Vous avez échappé aussi à Jeanne Moreau, Étienne Daou, Le condamné à mort de Jean Genet, mise en musique par Hélène Martin. Mais par contre, vous n'échapperez pas, pour faire plaisir au ministère des Armées, à L'évadé de Boris Vian, que nous allons bientôt écouter pour clore cette émission.
Alors pour la clore, quelques petites annonces peut-être pour terminer l'émission. Gérald, ce soir, toi et moi, nous allons à la dernière du retour d'Ulysse. Et oui, ce n'est pas la version italienne, il ritorno d'Ulisse in patria, c'est bien que le retour d'Ulysse, parce que la version est un peu plus courte, c'est l'opéra chef-d'œuvre de Monteverdi, il y en a trois. Hein. L'Orfeo, le couronnement de Poppée et puis donc le retour d'Ulysse dans sa patrie. Là, ce n'est intitulé que le retour d'Ulysse, parce que la version est un peu plus courte. Hein. Sinon, ce serait 3 heures de musique, ce serait peut-être un petit peu long.
L'intérêt, c'est Kendrick et la troupe de
pas tant la musique
d'Afrique du Sud.
Certes, c'est la musique, mais notamment, ce sont des chanteurs sur scène, Gérald ? Eh non, ce sont...
Je sais pas.
Mais Handspring, la Handspring Puppet Company, ce sont sur scène.
Ah, des marionnettes.
Eh ben oui, il faut le dire.
Et puis c'est surtout la scénographie, la mise en scène de cet immense artiste septuagénaire, William Kendridge, blanc d'Afrique du Sud, connu pour ses chefs-d'œuvre d'animation, son engagement politique anti-apartheid depuis des lustres. Il a peut-être 70 ans de carrière, je sais pas, 60 ans de carrière. Qui avait adapté aussi le nez de Gogol à l'opéra il y a quelques années.
Sinon, pour du théâtre, à venir, quoi qu'actuellement, il y a de la musique aussi, les Requiem, cette dernière parole du Christ en croix, ainsi que le Requiem de première œuvre de Haydn, et puis le Requiem de Mozart sont donnés au théâtre de la Croix-Rousse. C'était également une dernière ce soir. La semaine prochaine, le temps où la rivière, ça c'est un peu plus tard, ce sera l'absence de guerre dans les coulisses d'une campagne électorale, et nous en parlerons.
Théâtre avec, de la Croix-Rousse.
Avec Aurélie Vandendal, c'est effectivement au théâtre de la Croix-Rousse. Entre-temps, il y aura eu cette fin de semaine 89-80, Book of Travelers, une épopée en musique et en images à la rencontre de l'Amérique qui a voté Trump.
Ah oui.
Ça peut être intéressant.
Excellent.
Les 5
musicien.
Et 6 avril, un road movie musical. Il y aura aussi un peu plus tard, au mois de mai, Le Temps et la Rivière où je m'en vais pêcher. Nous en reparlerons également dans l'émission. Et puis au théâtre de Les Célestins, à venir la semaine prochaine, Le Faiseur de Théâtre, une œuvre très spéciale, très particulière, de Thomas Bernhard, André Marcon sur scène, Christophe Perton à la mise en scène. J'ai dit quoi, Bernard?
Oui.
Mais parce qu'il y a un DT à la fin,
alors
c'est compliqué. C'est le T qui prime, Thomas Bernard. Ça commence mardi, c'est donné jusqu'au dimanche de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a encore à venir? Beaucoup d'autres choses. Lundi soir, un rendez-vous musical très spécial, j'arrête pas de dire spécial ou particulier, à l'auditorium. Il sera sur scène, je crois, à Tom York, avec les sœurs Rivière, Katia et Marielle Labec. N'importe quoi, les sœurs Labec qui joueront des œuvres du minimalisme. D'ailleurs, c'est un deuxième rendez-vous. Et puis un peu plus tôt cette semaine, So British, l'auditorium avait anticipé sur le départ de l'Angleterre, du Royaume-Uni.
Présumé, là. C'est pas encore fait. Hein.
Le départ du Brexit.
Ça n'en finit
et donc,
plus de finir.
Il voulait faire un concert.
Il y a même un mot maintenant.
Un concert So British.
Néologisme, les gens qui n'arrivent pas à partir d'une soirée.
Ah bon,
ça s'appelle.
Faire une Brexit.
Voilà, non, Brexit ou Brexit, ou je sais pas le mot exact, mais ça existe déjà.
Concert donné ce jeudi à 20h et samedi à 18h. Le chef d'orchestre est anglais, Ben Glasberg. Les différentes œuvres, il y aura bien entendu du Thomas Hades, un grand compositeur anglais, puis d'autres œuvres aussi, une de Haydn, et puis je ne sais plus quoi. Nous, on en reste là. Tu m'as dit que c'était.
Oui, ça, c'est du Brexit que tu fais, de ne pas finir une émission.
Ça peut être. C'est parce que j'ai maintes annonces à faire, maintenant. Les traces, on reprend une dernière fois, les traces. Allez. Histoire au pluriel d'une prison, la prison Montluc, 1921-2010.
Le 3e arrondissement de Lyon.
Oui, c'est ça, c'est arrêt de tram, vous avez dit tout à l'heure, Adrien. Vous
n'êtes Manufacture pas Montluc, le tram T4.
Manufacture Montluc, c'est à côté
l'université.
Des tabacs, ça c'est derrière, il faut descendre la petite
entre
rue,
la Manu et la gare Pardieu, le long de la voie ferrée.
Voilà, il faut descendre la rue du Dauphiné, je crois.
Donc c'est pas de publicité pour les bistrots, ça c'est très bien.
Très bien, oui, il y en a un autre qui est juste à côté. Il y a la maison du judo qui n'est pas très loin aussi. Cette exposition a commencé en septembre, elle se termine en. Elle se termine quand
elle sera prolongée cet été et la date des fins sera communiquée un petit peu plus tard. Mais elle sera là cet été.
En revanche, Nicolas Deban se termine, donc il faut y aller. Auditeurs, auditrices, rendez-vous la semaine prochaine pour Aurélie Van Dendal pour du théâtre. Mais là, restons en musique.
Bonne semaine d'évasion.
Redonne-moi le titre,
je l'ai évadé.
Ah ben l'évadé, c'est très amusant.
La plage 20, l'évadé chanté par Philippe Clay.
Et hey, t'avais une cassette à diffuser.
Ah bon, la cassette, ça sera pour une autre fois. C'était Charlie Couture, Poème Rock, la balade de Serge K. Parce qu'il était question de traces. Pour laisser une trace, pour faire un signe.
Merci Adrien.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Fois, peut-être,
à la prochaine.
À la prochaine,
ça
au revoir.
Possible. Ciao Gérald. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. À venir, a priori, le blues des Canus, ou peut-être qu'il n'y a pas d'émission pour aujourd'hui, je ne sais pas. Tout à l'heure, à 17h, on n'arrête pas le prog. À 18h, Mayday. À 19h, le Canu Info. Et puis c'est tout. Bon allez, au revoir tout le monde. C'est
ciao.
Gérald.
Au revoir.
Je suis rentrée dans le bar du vieux Joe qui fait le coin de la rue au poire. Il versait à boire au sous-l'eau tout le long du grand comptoir.
Zut, zut, auditeur, on s'est gouré. Tout d'abord, j'ai pas indiqué que Tom York, c'est lundi 8 avril. Et puis, c'est la piste 20, donc je vais la chercher. Gérald, redonne-moi encore le titre. Qu'est-ce que
l'évadé.
C'est l'évadé. C'est l'évadé, c'est ça.
C'est quand même en lien avec l'émission.
Je voulais faire un petit coucou quand même au Canu Info de Gérald, le savais-tu, le Canu Info de jeudi dernier, c'est super sympa. Ils ont évoqué en fin d'émission Mon cœur, l'affaire du Midator. Et je les ai appelés. Je leur ai dit, ah, vous auriez pu dire qu'un spectaculaire, on en a parlé. Ben, ils ont fait comme ce que nous faisons à l'instant. Ils ont repris l'antenne. Il était passé 20h. Ils ont dit, ah, si vous êtes encore là, nous, c'est notre cas. Nous sommes encore là également. Ne manquez pas l'émission Spectaculaire 192 qui a été réalisée sur le médiateur. Donc voilà, merci à eux, merci à tous, merci encore Adrien parce que voilà, je suis très content. Nous écoutons l'évadé, on fait pas d'erreur. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu parce que c'est super sympa. C'est une grande famille Radio Canu. Bye bye tout le monde, ciao.
L'évadé. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, Le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil. Le temps de rire aux assassins. Le temps d'atteindre l'autre rive. Le temps de courir vers la femme. Juste le temps de vivre.